dans l'Épître aux Romains et c'est le chapitre 10. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur « qui montera au ciel ?» Ce serait en faire descendre Christ. Ou « qui descendra dans l'abîme ?» Ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc ? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Comme il est écrit, « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je demande alors, n'aurait-il pas entendu ? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Je demande encore, Israël n'aurait-il pas compris ? Moïse le premier dit, « Je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation. Je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. » Quant à Ésaïe, il pousse la hardiesse jusqu'à déclarer « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. » Mais au sujet d'Israël, il dit « À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. »
Saisir l'opportunité de saluer Gwendoline qui nous vient d'Angleterre et vous aussi qui est là parmi nous ce soir, content de vous avoir et puis aussi toutes les autres personnes qui est là, qui nous visitaient et comme c'est des anciens habitués, on est content de vous revoir. Selon une étude qui est sortie cette semaine sur le système médical en France, les délais d'attente en 5 ans sont passés en moyenne 13 jours supplémentaires. Alors, par exemple, on découvre que pour consulter un dermatologue, en moyenne, il faut attendre 63 jours, soit 23 jours de plus qu'il y a 5 ans. Et pour un ophtalmologue, en moyenne, 117 jours d'attente, soit 13 jours de plus qu'il y a 5 ans. Et quelle est la conséquence pour les patients ? Eh bien, la conséquence, c'est que certains patients renoncent aux soins, en se disant c'est trop compliqué, ça va prendre trop de temps, je laisse tomber. Le texte de ce soir, vous dites quel lien ? J'espère qu'il y en a. Le texte de ce soir fait un peu penser un peu à cette étude sur le système médical en France. Pourquoi ? Déjà, au niveau du contexte, on voit que l'apôtre Paul se pose des questions sur le fait que ses compatriotes juifs n'ont pas cru le message qu'il a annoncé, le message que Jésus a incarné. Ils n'y ont pas cru, alors que pourtant, ils ont grandi dans le contexte où Jésus a grandi. Ils ont reçu les mêmes promesses que Jésus a accompli. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus celui qui venait apporter une solution à leur problème de fond? Ces versets, ça fait un peu penser, qu'on a lu, font un peu penser à cette étude sur la santé, parce que l'apôtre Paul semble, par ses questions, vouloir voir s'il y a eu un dysfonctionnement. Vous l'entendez peut-être par le nombre de questions, mais aussi le type de questions qu'il pose. C'est un peu comme s'il se demandait, est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement dans la transmission de l'Évangile ? Et même, on peut voir un lien peut-être avec le système médical, dans la mesure où on a l'impression qu'il essaie de poser un diagnostic sur le fait qu'ils n'ont pas cru. Un peu comme une consultation, il pose des questions et il veut en savoir plus sur la raison de leur incrédulité. Alors on va voir comme plan l'anatomie de la foi, dans les versets 12 à 16. On va être dans le milieu médical ce soir. Le diagnostic de l'incrédulité, dans les versets 17 à 21. On verra dans l'anatomie de la foi que l'apôtre Paul il va vérifier tous les éléments qui font qu'une personne peut croire en Jésus. Et puis, dans le diagnostic de l'incrédulité, il va poser les questions qui doivent permettre de dire pourquoi ils n'ont pas cru. Avant d'entrer dans l'explication, ça vaut la peine de peut-être répondre à une question qui pourrait tarauder dans vos esprits. Alors qu'on en parle des Juifs ici, de la manière dont ils n'ont pas cru au message, est-ce que l'apôtre Paul est antisémite ? Ça pourrait être une question qu'on pourrait avoir. Pourquoi est-ce qu'il s'en prend à eux comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il leur parle de cette façon ? Est-ce qu'il est antisémite ? Au-delà du fait qu'il était lui-même juif d'origine, au-delà du fait qu'il a un amour profond, vous vous souvenez du début du chapitre 9, ce qui était là ? Il est prêt à être maudit de sorte qu'eux soient bénis. Pour leur salut, c'est ce qu'il est prêt à souhaiter. Mais au-delà de cet amour qui se sent à différents endroits, on peut aussi dire qu'en écrivant sa lettre, il a tout le monde à l'esprit. Si vous regardez au tout début de sa lettre, aux Romains, il fait un procès contre toute l'humanité. Et il commence dans le détail à dire la culpabilité des non-juifs. Et il nous a mis tous mal à l'aise, pour ceux qui étaient là. On a tous été mal à l'aise en écoutant ces accusations contre des non-juifs. Et c'est vrai qu'il poursuit avec les juifs. Mais ce qui doit nous rassurer ce soir, c'est que s'il s'en prend à la fois aux juifs et aux non-juifs pour décrire le problème, la solution qu'il envisage et qu'il décrit ici concerne tout le monde aussi. Et on va parler de l'anatomie de la foi maintenant. Dans le rapport dont je parlais, il y avait quelques éléments un peu drôles. Par exemple, pour un rendez-vous chez le dentiste, mieux vaut être corse que breton. Pourquoi ? Parce qu'en Corse, vous attendez 8 jours, et en Bretagne, en moyenne, vous attendez 21 jours, presque 3 fois plus en Bretagne pour les dents. Pour un délai d'ophtalmologie, pour consulter un ophtalmologue, au sud de la Loire, vous allez attendre environ 93 jours, et au nord de la Loire, à l'exception de la région parisienne, c'est 124 à 155 jours. Pas mal, hein ? En plus. Autrement dit, on n'est pas tous égaux devant les soins. Et là, c'est sans parler du revenu, du lieu d'habitation, de là où on habite, des conditions dans lesquelles on vit. L'apôtre Paul, ici, affirme que face à la solution que Christ propose, tout le monde est mis sur le même plan d'égalité. Face aux soins, on n'est peut-être pas tous égaux, mais face à la solution proposée pour être justifié devant Dieu, pour être déclaré juste devant Dieu, on est tous égaux. Regardez le verset 12. « Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif. » Souvenez-vous que l'apôtre Paul, il avait parlé des privilèges qu'avaient les juifs, d'avoir reçu toutes les promesses de Dieu, d'être descendant d'Abraham, d'avoir eu tout cet héritage. Et on pourrait imaginer qu'ils ont une longueur d'avance. Mais ce n'est pas le cas, non. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Eh bien, on va le voir dans quelques instants, mais la foi, cet appel qui est lancé à la foi, il s'adresse à tout le monde. Et remarquez comment il accentue le fait que tout le monde est égaux pour cette solution, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Vous l'entendez souligner cela ? Si c'était une solution qui nécessitait un certain niveau d'éducation, un certain financement, un certain arrière-plan, si Dieu faisait preuve de favoritisme, plutôt les hommes que les femmes, plutôt tel arrière-plan qu'un autre, plutôt telles origines que d'autres, on ne serait pas égaux devant la solution. Mais ce n'est pas l'affirmation de l'apôtre Paul. Le Seigneur est riche, c'est comme ça qu'il est décrit, généreux pour tous ceux qui font appel à lui. Et remarquez l'expression « faire appel à lui », l'invoquer dans d'autres versions. À quoi ça fait référence, faire appel au Seigneur ? Est-ce que ça vous fait penser à un accident qui doit survenir, quelque chose qui va vous arriver, et là vous criez à Dieu ? Mais pour réaliser ensuite que vous ou cette personne va petit à petit oublier toute pensée de Dieu dès qu'il est hors de danger, il ou elle est soigné, pris en secours par une aide médicale, et après ça, le cri est loin derrière. Une fois tiré d'affaire, aucune suite, aucune application. Paul précise qu'il s'agit de faire appel au nom du Seigneur. Connaître le nom d'une personne, c'est déjà savoir quelque chose au sujet de cette personne pour pouvoir faire appel à lui, se baser sur ce qu'on a appris de lui. Et remarquez ici que le terme utilisé, c'est « Seigneur ». Lorsque Pierre s'adresse à toute une foule au moment de la Pentecôte qu'il a en face de lui, des Juifs, il conclut son discours en disant que, alors qu'il a parlé de la mort et de la résurrection de Jésus, « que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Pierre, comme Paul, souligne que Jésus est Seigneur, le nom utilisé pour Dieu dans l'Ancien Testament, il est utilisé pour Jésus, pour le décrire comme Seigneur. Et ce n'est pas un simple cri sans résonance, c'est faire appel à celui qui est ressuscité d'entre les morts, qui est Seigneur. Dans des témoignages qu'on peut entendre, ça arrive assez régulièrement quand même que l'une ou l'autre personne puisse dire « Dans mon cheminement, j'ai compris que Jésus pouvait me sauver. » Et je l'ai reconnu comme mon sauveur. Mais après, dans mon cheminement, j'ai un peu vivoté au niveau de ma foi, il n'y avait pas beaucoup d'implications. Et par la suite, après telle ou telle circonstance, je l'ai reconnu comme mon Seigneur. À partir de là, j'ai voulu me soumettre à lui. Et si c'est vrai qu'on peut reconnaître la sincérité dans ce cheminement, dans le ressenti, comment est-ce qu'on doit faire avec ce que l'apôtre Paul nous dit ici ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'il dit au sujet de faire appel au nom du Seigneur ? Si Jésus peut sauver, c'est bien parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est bien parce qu'il est Seigneur qu'il peut sauver. C'est ce que l'apôtre Paul a dit un peu plus haut, au verset 9 et 10. C'est ces deux convictions d'ailleurs, qu'il est ressuscité, qu'il est Seigneur, sur la base desquelles il peut dire que quelqu'un est justifié devant Dieu. Alors pour utiliser des paroles qui seraient en cohérence avec ce texte, on pourrait dire, ce même témoignage pourrait être le suivant. Eh bien, au début de mon cheminement, j'ai fait appel au Seigneur comme mon sauveur. C'est vrai que j'avais beaucoup d'incohérences. Je n'avais pas compris les implications de la foi en Jésus. J'étais fragile dans ma manière de vivre ma foi, mais j'avance petit à petit. Et là, on a les éléments que l'apôtre Paul relève ici. Il faut que Jésus soit ressuscité pour qu'il puisse être notre sauveur. Et il est Seigneur. Et ce n'est pas seulement au début de notre cheminement chrétien qu'il est Seigneur. Dans sa première lettre aux Corinthiens, faire appel au nom du Seigneur, c'est une manière de désigner tous les chrétiens, comme si ça devait nous caractériser tout au long de notre vie. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que tout au long de mes journées, c'est ce qui me caractérise régulièrement? Je ne peux pas vivre sans faire appel à lui. Je ne peux pas vivre cette journée sans faire appel à lui. Je ne peux pas vivre mon travail sans faire appel à lui. Je ne peux pas vivre mes relations à la maison, au travail, dans mes amis, parmi mes amis, sans faire appel à lui. Dans cette anatomie de la foi, l'apôtre Paul passe en revue toutes les étapes qui vont de faire appel à lui. Verset 14, « Mais comment donc feront-ils appel à lui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ?» Marc, il fait les étapes dans le sens inverse. Alors qu'il vient de parler de cet appel au Seigneur, il va en quelque sorte vérifier tous les maillons de cette chaîne qui permet à quelqu'un de faire appel au Seigneur. Et pour ce qui est de la foi, on l'a vu la dernière fois, il s'agit de faire confiance, pas simplement de recevoir une information. L'étape nécessaire pour avoir cette foi, pour croire, eh bien c'est d'en entendre parler. Il pose la question, comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et si on est honnête, ça c'est un maillon qu'on a tendance dans notre culture à relativiser, à remettre en question. C'est pas rare de se dire que chacun devrait pouvoir avoir ses propres convictions sur le plan religieux, spirituel. Et on va plus loin en disant, ça reste dans le domaine du privé, on ne devrait pas en parler autour de nous. C'est quelque chose qui nous concerne personnellement, on ne devrait pas en parler en public. Présupposer, c'est que ça doit rester dans le privé pour éviter de froisser ou de diviser, de créer des tensions. Un autre présupposé qu'on peut avoir et qui met à mal cette étape dans la chaîne, c'est le fait de penser que Dieu se révélera à chacun. D'une façon ou d'une autre, il va permettre à chacun de croire. Et donc, on n'a pas besoin d'en parler. Mais pour l'apôtre Paul, dans l'anatomie de la foi, c'est un maillon dont on ne peut pas se passer. Il va falloir que quelqu'un en parle. C'est pour ça qu'on est encouragé à en parler. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se consacrent à l'annonce de ce message, qui consacrent leur vie à cela. Vous vous souvenez de Benjamin Short qui est venu il y a quelques semaines ici? Pourquoi est-ce qu'il est parti en Côte d'Ivoire parmi les Dioulas? Est-ce qu'il fait du zèle? Il en fait un peu trop? Ou est-ce que c'est peut-être de l'arrogance? Allez, poussez-vous, j'arrive, je débarque là-bas. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il a réalisé précisément que dans les étapes qui sont nécessaires pour que quelqu'un puisse venir à la foi en Jésus, il va falloir que quelqu'un en parle. Il va falloir que quelqu'un en parle. Et dans ces régions-là, où l'évangile n'est pas accessible, il va falloir que quelqu'un en parle. Ça ne signifie pas que tout le monde ici est appelé à partir, mais si c'en était que quelques-uns. Ça ne signifie pas que tout le monde ici doit renoncer à son travail pour partir, mais si c'en était quelques-uns. Tous en tout cas, pour tous il y a un appel à être témoin de cette bonne nouvelle. Et pour chacun d'entre nous qui sommes croyants ce soir, on a des personnes autour de nous pour qui on doit se dire qui est le témoin auprès de cette personne? Qui va pouvoir parler de l'Évangile auprès de cette personne, sinon moi, sinon vous? Ce maillon-là fait partie de l'anatomie de la foi, et c'est de cette façon que Dieu a choisi d'agir, d'attirer les personnes à lui. Il est souverain, il peut susciter un intérêt, il peut se manifester, mais à un moment ou à un autre, il va falloir des témoins. Il va falloir des témoins de l'Évangile. Et la question est posée, comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Maintenant, il y en a peut-être certains qui se disent, mais moi, ce n'est pas mon don. J'ai pas la capacité à parler de cet évangile clairement. Personne ne m'écoutera, c'est trop difficile, ou j'arrive pas à bien l'articuler. C'est important de réaliser que c'est pas la puissance du messager qui est importante, mais du message. Je vais rentrer dans une histoire vraie. Nous sommes en Angleterre du 19e siècle. Un adolescent de 15 ans veut se rendre dans une église parce qu'il est dans une sorte de crise spirituelle. Il ne peut pas se rendre à cause d'une tempête de neige dans l'église où il pensait se rendre. Alors il se rend dans une petite église, une quinzaine de personnes, des personnes âgées. Le prédicateur qui devait venir ce matin-là ne peut pas, et donc il va falloir le remplacer. Quelqu'un le remplace sur le champ. Et le jeune homme dira plus tard que cet homme, en fait, il n'avait pas grand-chose à dire. Il peinait à trouver les mots. Mais heureusement, il avait un texte. Le texte était le suivant, Ésaïe 45, verset 22. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Il dira par la suite que... Il épuisait toutes les possibilités d'utiliser le texte. Il disait des choses du genre « Vous devez vous tourner vers Christ, vous devez vous tourner vers lui maintenant, vous devez vous tourner sans tarder, tournez-vous vers Christ !» Et puis après, tous les temps de temps, il revenait au texte pour le relire. Mais vers la fin de sa prédication, il a pointé le doigt dans la direction de ce jeune homme. « Vous, jeune homme, qui êtes assis sous le balcon, vous avez l'air misérable. Vous avez l'air misérable. Tournez-vous vers le Christ et vivez. » Vous imaginez l'ambiance ? Vous avez l'air misérable. Et pourtant, dans ces conditions qui semblent misérables, c'est bien ce jeune homme qui a pu se tourner vers Christ et vivre. Vous savez peut-être de qui il s'agit pour ceux qui connaissent un peu les biographies. C'est ça, Charles Haddon Spurgeon. Et il semble que Spurgeon n'a jamais connu le nom de ce prédicateur. Mais il a fait l'expérience ce soir-là d'un message qui est plus fort que les conditions dans lesquelles il est donné. Et lui-même, Spurgeon, va voir l'efficacité de ce message. Il y a des milliers de personnes qui se sont converties à travers son ministère. À la fois le ministère qu'il a eu, mais aussi ses écrits. Par la suite, même s'il est nécessaire d'avoir des témoins, c'est avant tout dans le message lui-même que se trouve la force. Dans la lignée de la nécessité d'aller de l'avant, de parler, l'apôtre Paul fait une citation d'Ésaïe de nouveau qui surprend. « Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul fait référence aux beaux pieds? Vous imaginez un rendez-vous romantique, il y a un gars et une fille qui ont mangé ensemble sur la plage et qui ont bien échangé, discuté, il y a des sourires, il y a des regards échangés. Et, allez, le gars se lance dans le premier compliment. « T'as vraiment de beaux pieds, tu sais. » Ça paraît bizarre comme... est-ce qu'on va parler des pieds? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle des pieds ici? De beaux pieds? Et même dans la citation d'Ésaïe, dans le contexte, on voit que c'était l'annonce d'un message magnifique à entendre pour le peuple d'Israël. La fin de l'exil à Babylone doit être annoncée par un coureur, comme c'était l'annoncé à l'époque. Pensez au marathon, par exemple, entre Athènes, Marathon et Athènes. Un coureur, est-ce qu'il aura de beaux pieds? Esthétiquement, probablement pas. Couvert de poussière, avec des cloques peut-être, du sang. Mais spirituellement, du point de vue de Dieu, c'est des pieds magnifiques. Et le message, il est tellement fort, il est tellement beau, qu'on a envie de lui embrasser les pieds. C'est ce message-là que des témoins de l'Évangile sont appelés à annoncer, parce que ça nous permet d'être en paix avec Dieu, destinés à la vie éternelle. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez de beaux pieds ? Vous n'allez peut-être pas passer des heures chez le manicure ou avoir des pieds qui sont esthétiquement beaux, mais vous pouvez avoir de beaux pieds dans cette perspective-là, annoncer ce message là où d'autres ne l'ont pas annoncé. On passe ensuite au diagnostic de l'incrédulité. Après avoir décrit l'anatomie de la foi, il décrit le diagnostic de l'incrédulité. Ça remonte à quelques années, mais je me souviens d'une conversation assez drôle avec un ami. Je ne sais plus avec le temps exactement ce que j'avais comme problème, mais je crois que c'était des migraines liées à ma vision. Et alors que je discutais avec cet ami, je n'étais pas encore allé voir un spécialiste. Par compassion, il m'a posé toute une série de questions sur ce que je ressentais, qu'est-ce qui se passait, etc. Et il y a eu un bon nombre de questions au point de ça m'a paru 5 à 10 minutes de questions. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ces informations? Puis il me dit, rien, je ne suis pas médecin. Et pourtant, on avait l'impression qu'avec les questions, ben, les choses se précisaient, qu'il allait pouvoir en faire quelque chose. Mais il n'était pas médecin. Ici, l'apôtre Paul, il a aussi des questions qu'il veut poser, mais ça va préciser les choses. Il va arriver à un diagnostic clair. Déjà, il commence par faire une citation qui montre qu'il sait sur quoi il met le doigt. Dans la foulée, il parle de cette citation d'Ésaïe, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» C'est une citation forte. Dans quel sens? Ben déjà, c'est une plainte que Ésaïe adressait en son temps, lui, membre du peuple d'Israël, 700 ans plus tôt. Lui aussi criait à l'incrédulité. Et ça dit que déjà à l'époque aussi, il y avait un appel à la foi. Il y avait déjà une proclamation qui se faisait. Autrement dit, tout ce qui se passe là, au temps où l'apôtre Paul annonce ce message, ce n'est pas une nouveauté. Le fait de ne pas y croire, ce n'est pas une nouveauté. Mais il va poser des questions, parce qu'on peut se demander, avec ce qui est dit au sujet de cette foi, verset 18, n'aurait-il pas entendu? Est-ce que le problème vient du fait qu'ils n'ont pas vraiment entendu le message? Au contraire, non, ce n'est pas ça. Il pose une autre question, Israël n'aurait-il pas compris? Est-ce que c'est un problème de compréhension? Et là, la réponse, elle est encore négative. La surprise qu'il révèle même dans les versets 19 et 20, c'est que, en fait, même ceux qui n'avaient aucun bagage théologique, les non-juifs, les païens, eux, ils ont compris. Alors qu'ils ne cherchaient même pas, eux, ils ont compris. Alors d'où vient le problème? Si ce n'est pas qu'ils n'ont pas entendu, qu'ils n'ont pas compris, d'où vient le problème? La raison de leur incrédulité, elle est donnée. À la fin, le diagnostic est posé à longueur de journée, comme si Dieu parlait. J'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. C'est ça le diagnostic. Un peuple rebelle qui n'a pas envie d'écouter, qui n'a pas envie d'obéir à ce que Dieu dit. Notez que Dieu est décrit comme quelqu'un qui tend ses bras, qui invite à venir, et eux, ils refusent. Et dans un sens, Paul avait déjà dit, il l'avait déjà annoncé un peu plus haut, mais là, avec ce diagnostic qu'il pose, il est allé au fond des choses pour bien montrer que c'est ça le cœur du problème. Qu'est-ce qu'on va faire de ce qui est dit ici? En posant un diagnostic sur l'incrédulité d'une personne, on peut facilement se tromper. Imaginez une personne qui vient ici dans nos rencontres, qui n'est pas croyante, qui ne croit pas en Jésus, qui vient pendant des mois, qui écoute son message, mais qui décide après de ne plus l'écouter et qui ne se rend pas dans un autre endroit pour entendre cette parole. Quel diagnostic est-ce qu'on va poser? Est-ce qu'on va poser comme diagnostic, on aurait dû quand même adapter notre message. On aurait dû éviter dans nos textes, dans nos séries, tout ce qui va à rebrousse-poil, tout ce qui parle du surnaturel, on aurait dû l'enlever. Tout ce qui va à l'encontre de la culture, tout ce qui colle pas avec l'attente de nos contemporains, on aurait dû l'enlever. Est-ce que c'est ça le diagnostic qu'il faut poser? On aurait dû avoir un message plus pertinent, plus cool? Non. Ou alors un autre diagnostic qu'on pourrait poser, c'est Les pasteurs, ils sont pas assez dynamiques à la rue de Sèvres. Ce qui, en passant, est peut-être vrai. Ils sont pas assez dynamiques, il n'y a pas assez de punch. La louange, il faut qu'ils mettent le paquet à la louange. Ou les bâtiments, c'est vieux jeu, c'est dépassé. Et pour chacune des choses, il y a de quoi se remettre en question. Et pour ce qui est de la cohérence entre notre vie et notre message, certainement, il y a des remises en question à avoir. Mais si c'est pour se dire que le diagnostic, il est simplement là, on se trompe. Au fond, le problème, c'est une incrédulité qui trouve sa source dans une rébellion vis-à-vis de Dieu. Je serais tenté, comme ce soir-là, mais on n'a pas de balcon, de pointer le doigt vers quelqu'un ce soir. Vous, jeune homme, vous, jeune femme, vous avez l'air misérable, mais je vais résister à la tentation. Et pourtant, je ne résiste pas à la tentation de lancer cet appel. Parce que devant cet appel, on est tous égaux. On est appelé à simplement faire confiance à Jésus, à se tourner vers lui, à savoir que notre justice, on n'arrivera pas à atteindre le niveau de la justice de Dieu par nous-mêmes. Et lui, ce qu'il nous propose, c'est de nous couvrir de sa justice pour qu'on soit en paix avec Dieu, réconcilié avec lui. Je vous invite à quelques instants de silence. Mais notre Père, nous te prions que tu nous donnes, non seulement au tout début de notre cheminement, mais tout au long de notre vie, de faire appel au nom du Seigneur. Il est vivant, il est puissant pour sauver. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes dans ta grâce de voir des personnes ici encore et dans les années qui viennent venir à faire appel au Seigneur. Et donne-nous aussi, Seigneur, de considérer ce que nous avons à faire pour aller courir et avoir de beaux pieds, annoncer de bonnes nouvelles à ceux qui nous entourent. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen.